On avait fait appel effectivement à Giotto, lui dépêchant un chevaucheur à travers l'Italie, mais l'illustre Toscan, occupé cette année-là à peindre la vie de saint François d'Assise sur les murs de la Santa Croce, à Florence, avait répondu du haut de ses échafaudages qu'on s'adressa à son jeune disciple de Naples. Clémence de Hongrie se leva et s'approcha du chevalet. Haute et blonde, elle avait moins de grâce que de grandeur et moins de féminité peut-être que de noblesse. Mais l'impression un peu sévère que produisait son maintien était balancée par la pureté du visage, l'expression émerveillée du regard. « Mais, signor Oderisi, s'écria-t-elle, vous m'avez pourtraite plus belle que je ne suis. J'ai fidèlement suivi vos traits, donna Clemenza. Et aussi, je me suis appliqué à peindre votre âme. Alors j'aimerais que mon miroir eût autant de talent que vous. » Ils se sourirent, se remerciant mutuellement de leurs compliments. « Espérons que cette image plaira en France, je veux dire, à mon oncle de Valois, » ajouta-t-elle en montrant un peu de confusion. Car une fiction dont personne n'était dupe voulait que le portrait fût destiné à Charles de Valois pour la grande affection que celui-ci portait à sa nièce. Clémence, se disant, se sentit rougir. À 22 ans, elle rougissait encore facilement et s'en faisait reproche comme d'une faiblesse. Combien de fois sa grand-mère, la reine Marie de Hongrie, ne lui avait-elle pas répété « Clémence, on ne rougit point lorsqu'on est princesse et promise à devenir reine ». Se pouvait-il vraiment qu'elle devint reine ? Les yeux tournés vers la mer, elle rêvait à ce cousin lointain, ce roi inconnu dont on lui avait tant parlé depuis 20 jours, qu'était arrivé de Paris un ambassadeur officieux. Messire de Bouville lui avait présenté le roi Louis X tel qu'un prince malheureux, parce que, durement atteint dans ses affections, mais doué de tous les agréments de visage, d'esprit et de cœur qui pouvaient plaire à une dame de haut lignage. Quant à la cour de France, on devait y voir le modèle des cours, offrant un parfait mélange des joies de famille et des grandeurs de la royauté. Or, rien n'était mieux fait pour séduire Clémence de Hongrie que la perspective d'avoir à guérir les blessures d'âme d'un homme éprouvé coup sur coup par la trahison d'une épouse indigne et la mort hâtive d'un père adoré. Pour Clémence, l'amour ne se pouvait séparer du dévouement. À cela s'ajoutait l'orgueil d'avoir été choisie par la France. Certes, j'aurais longuement attendu un établissement au point que je n'en espérais plus. Et voilà peut-être que Dieu va me donner le meilleur époux et le plus heureux royaume. Aussi, depuis 3 semaines, elle vivait dans le sentiment du miracle et débordait de reconnaissance envers le Créateur et l'univers entier. Une tenture brodée de lions et d'aigles se souleva, et un jeune homme de petite taille, au nez maigre, aux yeux ardents et gais, aux cheveux très noirs, entra en s'inclinant. « Oh, signor Baglioni, vous voilà !» dit Clémence de Hongrie d'un ton joyeux. Elle aimait bien le jeune Siennois, qui servait d'interprète à l'ambassadeur et donc, pour elle, faisait partie des messagers du bonheur. « Madame, » dit-il, « Messire de Bouville m'envoie vous demander s'il peut venir vous rendre sa visite. J'ai toujours grand plaisir à voir Messire de Bouville, mais approchez et dites-moi ce que vous pensez de cette image qui est maintenant achevée. « Je dis, madame, » répondit Guccio, après être resté un instant silencieux devant le tableau, « je dis que ce portrait vous est fidèle à merveille et qu'il montre la plus belle dame que mes yeux aient admirée. »
Oderisi, les avant-bras tachés d'ocre et de vermillon, buvait la louange.
« Vous n'aimez donc point quelques demoiselles en France, comme je l'avais cru comprendre ?» dit Clémence en souriant.
« Certes, j'aime, madame. »
Alors, vous n'êtes point sincère ou devers elle ou devers moi, messire Guccio, car j'ai toujours ouï dire que pour qui aime, il n'est de plus beau visage au monde que celui dont on est épris.
La dame qui est ma foi et qui me garde la sienne, répliqua Guccio avec élan, est à coup sûr la plus belle qui soit, après vous, donna Clemenza, et ce n'est point mal aimé que de dire le vrai.
Depuis qu'il était à Naples et se trouvait mêlé au projet d'un mariage de roi, le neveu du banquier Ptolémée se plaisait à prendre des airs de héros de chevalerie, blessé d'amour pour une belle lointaine. En vérité, sa passion s'accommodait assez bien de l'éloignement, et il n'avait laissé perdre aucune occasion des plaisirs qui s'offrent aux voyageurs. La princesse Clémence, pour sa part, se sentait pleine de curiosité et de disposition affectueuse à l'égard des amours d'autrui. Elle aurait voulu que tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles de la terre fussent heureux.
« Si Dieu veut que j'aille un jour en France, »
elle rougit à nouveau.
« J'aurai plaisir à connaître celle à qui vous pensez tant, et que vous allez épouser, je le souhaite. Ah, madame, fasse le ciel que vous veniez, Vous n'aurez pas de plus fidèle serviteur que moi, et j'en suis certain de plus dévouée servante qu'elle. »
Et il ploya le genou, avec le meilleur air, comme s'il se fût trouvé en tournoi devant la loge des dames. Elle le remercia d'un geste de la main. Elle avait de beaux doigts fuselés, un peu longs du bout, pareils aux doigts qu'on voyait aux saintes sur les fresques.
« Ah, le bon peuple, les gentilles gens !»
pensait Clémence en regardant le petit Italien qui en ce moment lui représentait toute la France.